Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 860 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, c'est original, hein, ville européenne du vin 2019 sur 103.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le beau vignoble de Saint-Nicolas de Bourgueil. Un premier voyage en Catalogne chez un très bon producteur de vin, la maison Torres. Les voies de Saint-Tropez, on en parlera aussi. Et devine le quiz pour gagner un beau cadeau en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Piau, Philippe Forbach, David Cobol et Jean-Baptiste Duteur. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, on accueille une femme formidable, n'est-ce pas, Paz Espejo, directrice du château Lanezan. Bonjour Paz.
Bonjour à tous.
Alors, merci. Il paraît que votre histoire, vous êtes très jeune, vous, mais que l'histoire du domaine débute en 1310 sous le règne du cousin de David Cobold, le roi Édouard, roi d'Angleterre et duc de Guyenne. Vous confirmez ça ou pas?
Je confirme tout à fait.
Parfait.
Alors, 1310, bon, c'était juste avant Thiers Bintin, on va essayer de parler d'aujourd'hui. Nous voici en 2019, ça marque la dixième année de votre arrivée à la naissance, Paz.
C'est ça.
Le bilan au bout de 10 ans, donc à Cussac-Formédoc.
D'abord, c'est où là? Ouais, exactement,
voilà,
c'est où là?
Oui. À Cussac-Formédoc, vous êtes arrivé pour trouver 75-80 hectares de vignes d'un seul tenant. Un joli bébé pour jouer avec. Hein. Vous produisez quoi? 220 000 bouteilles par an à peu près?
Un petit peu plus. De la naissance, à peu près 320 000.
Ah oui, quand même.
Oui.
En 10 ans, racontez-nous ce que vous avez fait de ce domaine.
Oh, beaucoup de choses. C'était déjà un très joli vignoble avec un très beau potentiel. Nous sommes situés juste en face de Saint-Julien-de-Bechevel. Donc, il y avait beaucoup de travail, mais une pépite, en fait, à mettre en valeur. Donc, on s'est attaqué surtout au vignoble pour le transformer, pour être un petit peu dans les goûts du temps. C'est la pérennisation du terroir et en même temps le respect de l'environnement, travailler les sols, leur donner un petit peu de vie, mettre un petit peu
alors,
plus
leur,
dans
leur
la bouteille.
Donner un petit peu de vie, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Que vous êtes certifié en bio?
Alors, pas tout à fait. On est en HVE3, on va dire, en conventionnel, mais avec vraiment une lutte raisonnée dans la mesure du possible. Donc, on travaille les sols. On réduit les désherbants. L'idée, c'est d'ici 3 ans d'avoir zéro désherbant de toute façon sur la propriété. Donc, on se donne les moyens humains et matériels pour pouvoir bien travailler nos vignes. On a beaucoup arraché et replanté pour repositionner dans les terroirs qualitatifs, de façon à avoir dans la bouteille la personnalité que nous pensions que ce vin devait avoir avec son potentiel. C'est d'un seul tenant. Les 86 hectares aujourd'hui sont d'un seul tenant, sont très bien exposés nord-sud. Et en fait, voilà, je pense qu'on a ciselé la qualité pour faire quelque chose de plus précis, de plus élégant et vraiment de plus, on va dire, de plus qualitatif que ce qui se faisait avant, qui était déjà très bien.
Alors, vous avez maintenant 3 gammes, la naissance, les calèches de la naissance et puis Château Saint-Gemme. Donc vous parlez de vos vignes, on a quoi comme moyenne d'âge sur les vignes? 30-35 ans?
À peu près, un petit peu moins parce qu'on a un peu rajeuni, donc on est plutôt dans les 25 ans, oui.
D'accord. Et on va parler de l'étendard Château Lanessant. Donc vous êtes en appellation au Médoc?
Oui, entièrement.
Donc c'est une cuvée qui a 3 cépages, hein, les Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. Est-ce qu'on peut dire un peu que le Petit Verdot, c'est votre botte secrète?
Un petit peu, oui, ça marque vraiment la personnalité des vins du Médoc, du Nord Médoc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce cépage. Il faut vraiment le travailler avec beaucoup de soin, être très présent. C'est une vigne difficile à travailler, mais c'est un cépage qui apporte une personnalité particulière, une élégance et des tanins tout à fait uniques.
Philippe Forbrac?
Oui, Paz. Quel est le pourcentage de ce cépage particulier, quand même, Petit Verdot?
Alors, ça dépend beaucoup des millésimes, mais nous sommes à un minimum de 5%. Et nous pouvons arriver à 10-11%.
Ah, c'est conséquent. C'est conséquent. Donc. Est-ce que vous avez vu, avec l'évolution du climat, évoluer également donc, ce cépage depuis que vous êtes arrivé?
Alors, le cépage en lui-même, celui-là, non. Il a moins évolué. Nous, ce qu'on retrouve, en fait, ces dernières années, c'est premièrement que les vignes souffrent de plus en plus de la sécheresse. Mm-hmm. Ça, c'est un fait. Que les degrés, évidemment, ont tendance un petit peu, pas augmenter vraiment, mais à être plus fort de façon permanente que ce qu'il n'était il y a 10 ou 15 ans. Après, il y a plusieurs choses. On peut l'attribuer au changement climatique, mais on peut l'attribuer aussi à notre volonté technique. C'est-à-dire que maintenant, on recherche beaucoup plus la maturité, on a des rendements beaucoup plus bas, on fait des effeuillages. Donc forcément, la technique a influencé aussi sur les degrés alcooliques. Il n'y a pas que le changement climatique, mais c'est ce qu'on retrouve effectivement. Ouais. Alors nous, on a de la chance dans le Médoc, c'est qu'on garde malgré tout des acidités naturelles qui sont assez élevées. Et donc nos vins, malgré
ça, c'est bon pas pour le vin d'avoir une acidité naturelle ou pas pour oui, le consommateur oui, qui nous écoute qui se dit oulala si c'est acide c'est pas bon hein.
Si. Non au contraire, après ce qu'il faut c'est que autour il y ait un ensemble qui équilibre, mais l'acidité donne plusieurs choses. Premièrement, la capacité de vieillissement, la longueur, la fraîcheur, ce qu'on appelle l'appétence, c'est-à-dire l'envie de continuer à boire, même s'il faut le faire avec modération, avec des gens sympas et en partageant et en passant un bon moment, il faut quand même il faut quand même que le vin ait une certaine acide pour pouvoir être appétant, effectivement. Alors, et se marier avec les mets.
C'est effectivement la définition de la cuvée que j'ai goûtée, la naissance 2014, que je conseille à tous nos auditeurs parce que, justement, il y a cette touche d'acidité, de fraîcheur, mais dans un vin qui est un archétype de Médoc, qui est chic, élégant, mais pas lassant. C'est souple, soyeux, chantant. J'avais l'impression de vous entendre en buvant ce vin.
La naissance, mais pas lassant.
Très joli, je l'ai pas fait exprès,
David Cobold.
Des tanins parfaitement
fondus. Je peux l'utiliser comme dans ma com.
Je vous offre le copyright.
Passe 10% seulement.
10%, c'est. Pour terminer, passe. Il y a un élément important dans le vin, c'est le bouchage. Vos bouteilles sont bien bouchées parce que les consommateurs parfois sont effrayés par des trucs bizarres qui s'appellent les goûts de bouchon. Là, vous ça va?
Alors nous ça va parce qu'on a fait, on a pris une très bonne décision déjà il y a très longtemps. On a été un des premiers à vraiment croire dans les bouchons de Diam et depuis on a absolument zéro problème. Nous on a bouché notre première cuvée avec ça et on est hyper contents depuis ce moment, non seulement pour les goûts de bouchons mais aussi pour la capacité, la performance du bouchage elle-même. Nous il faut savoir qu'on envoie nos vins partout dans le monde et en particulier en Asie du Sud-Est où en fait oui, les vins sont un peu maltraités. J'ai fait énormément de dégustations là-bas et je n'ai jamais trouvé ni
bravo, pas David Cobold pour terminer.
Oui, je suis d'accord que c'est un excellent bouchon technique qui fonctionne parfaitement. Le seul problème, seule petite critique, c'est comment les remettre dans le col de la bouteille après avoir bu la moitié de la bouteille. C'est très dur.
Eh bien, on va poser la question au technicien de chez
vous. Oui, voilà, exactement, il répondant.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous. Merci.
Une vidéo sur Radio. Retrouve Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde, pour nous présenter l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil.
Et oui, une appellation dont on a parlé une quinzaine de jours avec Sébastien David et ça m'a donné envie d'aller me balader pendant cette période de pré-vendange et même certaines parcelles dont les vendanges ont déjà commencé dans ce très joli vignoble qui est situé aux confins de la Touraine, de l'Anjou, pas très loin de Chinon, avec une influence à la fois saumuroise. C'est très beau, c'est assez vallonné, c'est parfois un peu pentu. Bourgueil est assez connu. Saint-Nicolas de Bourgueil chante à côté de Bourgueil depuis longtemps. Depuis que les moines, autour de l'an 990, ont créé l'abbaye de Bourgueil, c'est vrai que le vignoble s'est vraiment bien développé. Il faut dire que les qualités géologiques du coin permettent effectivement de faire, par exemple pour Bourgueil, c'est pas mon sujet du jour, mais on le compare souvent, sur Bourgueil, des vins plus denses, plus structurés, il y a davantage de craie, de tuffeau, et qui donne effectivement plus de sève au vin. Sur Saint-Nicolas, les trois quarts de l'appellation sont sur des terroirs plutôt sableux, avec effectivement du tuffeau un petit peu, mais plutôt sableux, ce qui permet d'avoir des vins beaucoup plus souples. On produit environ sur 1000 hectares de vignes, et depuis déjà plusieurs siècles, donc essentiellement des vins rouges, élaborés à partir du Cabernet Franc, qu'on appelle le Breton dans la région. On a droit pour l'appellation... Parce qu'on peut imaginer que c'est venu de la part de nos amis bretons, peut-être même grands bretons, qui étaient fans de ce cépage.
Je pense que l'histoire est plus complexe que ça. Ça a cheminé par le port de Nantes en venant de Bordeaux. Et donc on a attribué ça aux bretons, mais au fait ça venait de Bordeaux.
Parce que Nantes est en Bretagne, c'est ça?
C'est ça.
Le château des Ducs de Bretagne.
Ben oui. C'est la frontière.
Il faut demander aux gens de Rennes pour savoir s'ils sont tous d'accord avec cette histoire. Mais voilà, en tout cas, effectivement, c'est grâce à la Loire, finalement, via la Bretagne, effectivement, que ce cépage est arrivé. Dans l'appellation Bourgueil, d'ailleurs, c'est une petite spécificité de l'appellation. On a droit à 10% de Cabernet Sauvignon.
Tiens donc.
Et finalement, relativement peu utilisé, parce que le Cabernet Franc, à mon avis, donne vraiment de bien meilleurs résultats. On produit une touche de rosé. C'est vrai que c'est assez tendance, le rosé, ces dernières années. Le rosé qui se vend bien, ça représente quand même moins de 5% de
Est-ce qu'il est bien clair comme on l'aime?
Bah, on peut le faire comme on veut, le rosé, finalement. Il suffit d'arrêter la macération lorsque, effectivement, la couleur que l'on souhaite. Et effectivement, la tendance aujourd'hui, c'est un peu, bon, c'est une petite parenthèse rapide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la couleur des rosés, elle est un peu définie. Et franchement, aujourd'hui, on goûte des rosés de quasiment toutes les régions. Qui veulent faire du rosé tendance, ils font tous des rosés pâles et c'est pas la couleur qui
va. Il y a une nouvelle marque qui a été créée, c'est le rosé Cobold.
Indication.
Il est assez foncé.
Particulière. Donc le rosé de Cabernet, justement, donne des rosés très aromatiques, très acidulés également, et donc plutôt franchement très agréables. Moi, j'avoue que j'aime bien les rosés de Loire et les rosés de Cabernet Franc, de Saint-Nicolas en particulier. Le côté tendre dû au sable permet d'avoir justement cette fraîcheur et cette suavité qui est intéressante. Quant au rouge, on a tendance à penser que avec souvent raison, que ça donne des vins plutôt souples, beaucoup plus facilement accessibles que les bourgueilles qui demandent un peu plus de temps. C'est vrai. Pour beaucoup de cuvées, quand vous goûtez chez Frédéric Mabillot, les Roulières par exemple, ou d'autres cuvées, ce sont des vins friands et au bout d'un an ou deux, ils sont vraiment juste très agréables à boire. Mais certaines cuvées, notamment pour la partie des tuffeaux, permettent d'avoir effectivement des Saint-Nicolas de garde. Et il m'est arrivé d'en goûter de 10, 15 ans, même un peu plus, et avec beaucoup de plaisir. On a plus de fruité sur les sables, on a un peu plus de matière et de notes un peu plus concentrées comme la violette ou la réglisse par exemple sur les tuffeaux. Tout ça, c'est la même appellation mais avec des nuances un peu différentes. Et c'est un vrai vin accessible parce que finalement Saint-Nicolas, même si les vins de Loire ont plutôt tendance, et c'est légitime, hein, à avoir un peu leur prix de vente augmenté, ça reste quand même des vins accessibles entre 10 et 15 euros. 20 euros pour certaines cuvées particulières certains vignerons sur des très vieilles vignes, mais qui sont issues avec des petits rendements. Et franchement, par rapport au travail que ça demande, c'est tout à fait un prix qui est tout à fait justifiable.
Température de service, Philippe.
Température de service jeune et plutôt sur les sables, 14-15 degrés. Donc vraiment, d'accord. On sort de la cave, on attend quelques instants. Et sur les millésimes plus anciens, on peut monter de 3 degrés. Il ne faut pas hésiter à les mettre en carafe. Ça supporte vraiment bien l'oxygénation, c'est Cabernet Franc. Et ce sont des vins. Pour l'un, sur les sables et fruités, des vins d'entrée, des vins de cochonnerie, des vins de copains, des vins simples d'accès. Les autres méritent effectivement. Cochonnerie, c'est pas mal aussi.
Cochonnerie,
je vous laisse le juge et travailler sur le sujet. Alors, le Clos des Carterons, ça c'est la famille Amiro, le domaine du Mortier. Frédéric Mabieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, Sébastien David qu'on salue, le domaine Laurier ou le Laurieux ou la cave de Saint-Nicolas qui travaille pas mal du tout.
Merci
aussi.
Beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz et gagner les jolis cadeaux.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec vous Hélène et puis le Vino Quiz.
Oui, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Avec quoi sont bouchées les bouteilles du château La Naissant ? Réponse A, des capsules. Réponse B, des bouchons de la marque Diam. Ou réponse C, des boules caisses pour buveurs malentendants. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm.
Et débouchez-vous les oreilles.
Rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau, Invino Sud Radio. Retrouve David Cobold, notre anglais à nous, la cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour un voyage en Catalogne. Quelle belle région.
Quelle belle région. Et là, j'ai fréquenté surtout la partie espagnole de la Catalogne, avec deux visites que je vais vous relater aujourd'hui. Un grand domaine, très grand domaine et producteur, négociant également, et un tout petit. Donc un contraste entre le très beau petit et le très beau grand. Ça existe.
Ça, c'est important, David.
C'est très important. Mm-hmm. La qualité n'est pas fonction de la taille.
Moi, par exemple, je suis très belle et petite. je le dis pour nos auditeurs qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vue.
Alors, le 06 d'Hélène est 06, 69.
Alors, revenons au vin et au fait. La maison Torres, ça vous dit quelque chose, sans doute. Alors, Torres est propriétaire, maison fondée au 19e siècle, maison toujours familiale. 1800 hectares dans la seule Catalogne espagnole. Hein.
Ça, c'est énorme.
Ça cause. Hein. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils sont propriétaires aussi à Rueda, à Riesch Baixas, à Rioja, à Priorat et à quelques autres régions.
Ils ne sont pas au Mexique également.
Ils sont en Californie et au Chili également. Ouais. Donc c'est une énorme maison et très très belle. Alors ils ont fait leur renommée internationale par un vin en plantant du Cabernet Sauvignon juste à côté de leur base qui est à Villa Franca de Penedès, dans un domaine qui a à l'origine un vin qui s'appelait autrefois le Grand Corona, ce qui aujourd'hui s'appelle Mas de la Plana, qui aujourd'hui est leur centre d'accueil. C'est à peu près à 45 minutes à
Quand
l'ouest,
vous dites, David,
à l'ouest
centre de d'accueil, c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'œnotourisme aussi, c'est ça ?
D'une manière très importante et très sophistiquée. Leur nouveau centre est vraiment un comble de sophistication avec un très bon restaurant, un accueil, des visites dans des petits trains qui sont conduits par des panneaux solaires. Enfin, vraiment, on voit les choses à la fois en grand et avec beaucoup de finesse. Et les vins sont remarquables. Alors, parfois, on critique les grands domaines, mais Torres est resté au sommet depuis les années 70, je pense, quand il a émergé avec ce grand Coronas. Quand j'étais caviste pas très loin d'ici, au Cave de la Madeleine, je me souviens avec émoi le 78.
Grande émotion.
Le 78 de grand Coronas, qui était un Cabernet Sauvignon extraordinaire. Donc, ce vin, aujourd'hui, continue à être très bon. J'ai visité le chai parce qu'il est sur place. Et puis j'ai goûté de très beaux vins partout, y compris des blancs. Alors les blancs, c'est assez intéressant parce que la femme de Miguel Torres Senior, le père qui a passé maintenant la main à son fils, la femme est allemande. Et comme challenge, il a essayé de faire un Riesling. Alors faire un Riesling en Espagne, c'est pas donné, hein. Donc il est allé chercher des vignes tout en haut des Pyrénées, près de la frontière. Je ne sais pas à quel endroit, ça n'a pas d'appellation. Mais le vin est très réussi. Il appelle ça le Valtraub, qui est le nom de famille de son épouse. Et j'étais épaté par ce vin. Alors après, il a depuis peu de temps commencé à ressusciter les cépages autochtones, catalanes. Donc sur certains vins, on a des cépages très très différents. Bien sûr, la base, c'est toujours le Grenache, le Carignan, oui, la Syrah, etc.
Et le Riesling maintenant.
Et maintenant le Riesling, mais bon, c'est très marginal. Tous les vins de la Catalogne sont nommés par la famille, la Familia Torres, c'est leur signature. Après, les autres appellations ailleurs en Espagne volent sur leurs propres ailes avec des noms de domaines. Et j'ai visité quelques-uns de ces domaines, notamment celui de Montserrat, qui est une magnifique région montagneuse au nord de Barcelone, quand vous remontez vers la frontière, et derrière lequel se trouve cette très vieille ville catalane qui s'appelle Vic, mais ils prononcent ça Vic, qui est un peu le centre de l'indépendantisme avec lequel je suis plus que moyennement d'accord. Mais bon, il y a des rubans jaunes partout, mais cette ville est magnifique. Alors, ce site donne beaucoup de fraîcheur parce qu'on est en altitude. J'ai pris une énorme saucée de pluie à moto en sortant de cette ville. C'est vraiment... On était
voilà
à
ce que
10
c'est
degrés.
De se moquer des indépendantistes.
Ben oui, c'est ça.
C'est le seul pseudo du mois d'août.
Mais honnêtement, je recommandais Torres. Alors, il a fait sa renommée par des vins entrée de gamme et qui sont toujours très bons et très fiables, mais ses hauts de gamme sont remarquables. Alors, il a eu le grand privilège de faire un vin qui s'appelle le vin des Raïs, parce qu'il a demandé au roi, à l'ex-roi Juan Carlos, quand il est venu visiter le domaine, quel était son vin préféré. Il n'a pas été très diplomate, le roi, il a dit le vin de Bordeaux. Bon, c'est un peu dommage pour un catalan d'entendre
oui,
ça.
Bizarre.
Et alors, du coup, Miguel Torres...
Après, c'est qui va se séparer.
Non, mais s'est mis en tête de faire un assemblage bordelais. Il a fait un vin magnifique. Alors, c'est vendu à un prix un peu délirant, 270 euros. Mais...
270
et oui,
euros,
et oui, et oui, et oui, et oui.
Ah, oui.
Mais
à ce prix-là, on a la couronne du roi ou pas?
Oui, non, mais je mettrai ce vin dans une dégustation avec les premières ou deuxièmes crues classées de Bordeaux.
Parce et vraiment, c'est ce niveau-là.
Ah oui, c'est ce niveau-là.
Pour 10 bouteilles, il peut se racheter une moto.
Non, mais c'est pour ça que je n'achète pas ces vins-là, je préfère acheter des motos. Hein. Mais alors, vraiment, Torres, c'est une marque très connue, très reconnue, très large, mais très bon. Et ça, vous pouvez
donc
vous
18 fier, sur 20, David.
Comment
18 sur 20
18 et demi. Hein.
Et demain, donc, on parlera d'un...
Demain, un tout petit domaine petit. Qui, à la différence de Torres, 1800 hectares, fait 7 hectares et demi.
Oh là là. Merci, David Kobold. C'est la beauté du vin, ça aussi, David. Une vidéo sur Radio. Oui. Retrouve Jean-Baptiste Duterte, fondateur et rédacteur en chef du magazine Bulles et Millésimes, pour nous emmener en balade au voile de Saint-Tropez. C'est très tendance
et
aujourd'hui,
oui,
l'émission.
Oui, messieurs, dames. Hein. Je vous emmène aujourd'hui prendre l'air du large à Saint-Tropez pour célébrer le 20e anniversaire sous sa forme actuelle des voiles de Saint-Tropez. Et si je veux vous en parler, c'est pas simplement parce que j'aime Saint-Tropez, ce n'est pas non plus parce que Louis de Funès est le meilleur acteur de tous les temps et que son personnage du gendarme est indémodable ou presque.
La musique aussi. Douyou, Saint-Tropez. Excusez-moi, Jean-Baptiste.
Non, mais avec plaisir.
Philippe Format, quand même, qui chante.
Si je vous en parle, c'est que cet événement sportif est associé depuis toujours au plus prestigieux des vins à bulles, le vin de champagne. Alors, je vous propose de vous asseoir 2 minutes sur la terrasse de Sénéquier, de commander une jolie part de tarte tropézienne, d'admirer les yachts en face de vous.
Voyez, de regarder la jolie robe d'Hélène Piau.
Et voilà, et vous écoutez ma belle histoire d'amour. Ça vous va comme programme?
Ah, c'est parfait.
Allez, on y est.
Il était une fois, en 1981, deux skippers qui se lancèrent un défi, celui de rallier au plus vite une bouée située au large de la plage de Pamplonne. Le perdant devait alors inviter le gagnant à déjeuner au restaurant du Club 55, club de plage le plus célèbre de la région. L'histoire ne dit pas qui gagna la première New Largue, c'est le nom de la course, mais sans réellement s'en apercevoir, ces deux gaillards venaient d'inventer une course qui allait devenir mythique. Dès l'année suivante, plusieurs dizaines de bateaux se retrouvèrent et c'est là que l'association avec le champagne a vu le jour. L'histoire m'a été racontée l'an dernier par Patrice de Colmont, l'historique et emblématique patron du Club 55. Patrice de Colmont était au début des années 80 en contact avec Jean-Marie Dubois, le directeur des relations publiques de Moët-et-Chandon, que certains, je crois, autour de cette table ont connu. Flairant la bonne affaire médiatique, Jean-Marie Dubois a proposé à Patrick de Colmont de donner un peu de prestige supplémentaire à l'événement en le sponsorisant. C'était nos limites au départ, m'a expliqué le patron du Club 55. Les Magnum et Jéroboam de Champagne allaient d'un bateau à l'autre pour le plus grand plaisir des équipages. Et les photographes ne se sont pas gênés.
C'était avant la loi Evin.
Absolument. Oh,
c'était modération.
C'était bien avant.
Bien.
Et donc les photographes ne se sont pas gênés pour réaliser des clichés marquant ce mariage entre le yachting et le vin des rois. Et pour prolonger la fête, comme on sait si bien le faire à Saint-Tropez, un grand dîner était organisé par la maison d'Épernay pour 200 personnes, toutes vêtues de blanc. C'était le dîner où il fallait être pendant la semaine de course. Le mariage d'amour a donc commencé ainsi. La compétition a pris de l'ampleur avant de disparaître sous sa forme primaire. Puis en 1999, sous les cendres de la New Largue, les voiles de Saint-Tropez ont vu le jour et sont devenues l'événement que l'on connaît aujourd'hui. Et le champagne n'a pas quitté l'histoire, bien au contraire. Après Moët, durant de nombreuses années, la maison Pommerie a été le partenaire champagne de l'événement durant une dizaine de numéros. Et pour cette 20e édition qui se déroule en ce moment, c'est la maison Bessera de Belfond qui a été choisie. Il faut dire que cette maison correspond plutôt bien à Saint-Tropez. Elle vient de transformer l'habillage de l'ensemble de sa gamme et désire désormais communiquer sous les initiales de son nom. Bessera de Belfond, ça fait bébé. Il y a peut-être quelque chose qui parle à Saint-Tropez. Hein.
Ouais. C'est une très belle maison, Bessera de Belfond, avec un vin excellent.
Je ne sais pas si
Philippe et David
veulent en parler, mais c'est un vin très mousseux dans sa création.
Oui, c'est vrai. Même s'ils ont été aussi l'inventeur d'un vin qui moussait un peu moins, puisque le crément des moines de Bessera de Belfond, qui s'appelle aujourd'hui le vin des moines. Enfin,
le vin des moines, et qu'ils vont arrêter pour avoir uniquement cette cuvée.
Exactement. Était un peu moins mousseux, mais effectivement, il y a cette... Voilà.
Alors, un champagne, quoi. Un beau champagne. Si ce week-end ou le prochain, vous passez par Saint-Tropez et sa région, entre une soirée au Cave du Roi, une visite de l'ancienne gendarmerie et un dîner chez le magicien de la cuisine Arnaud Donquel, arrêtez-vous du côté du port. Vous allez y rencontrer des dizaines de marins passionnés de voile, mais aussi un peu de bulles.
Bon, c'est excellent ça. Ce sont des beaux événements. Est-ce qu'on peut regretter, David, Philippe, Hélène, que malheureusement, cette notion de sponsoring ne soit plus tellement légale et autorisée? C'est regrettable ou pas? Parce que c'était un bel événement. Le champagne, c'est un des grands vins de la fête, peut-être le plus grand vin de la fête. Vous en pensez quoi, Philippe?
C'est dommage, en tout cas. Après, c'est dans l'air du temps et il ne faut pas, comme on dit, tout mélanger. C'est un peu la limite de l'exercice actuel.
Ouais.
Mais peut-être que sous l'angle, non pas sportif, parce que là, pour le coup, c'est interdit, mais sous l'angle culturel, il y a des choses sûrement à faire. Et
oui.
Faire se rassembler des mondes, éviter peut-être de laisser des sous-entendus, mais continuer. Il y a sûrement des moyens
quand même.
Il y a justement un très bon rôle pédagogique à jouer. Justement, à la fois faire connaître les marques, puisque bon, clairement c'est pour ça qu'elles payent, mais du coup aussi le savoir-faire qu'il y a derrière, les hommes, les femmes qui travaillent nos sols, nos terroirs, et puis apprendre que on peut faire la fête avec un verre, avec deux, si on ne conduit pas, et s'arrêter là.
Oui, bien sûr. Jean-Baptiste
et clairement, sans l'aide de Moët-et-Chandon...
Ou qu'est-ce que l'appelage de la modération
au départ.
Au départ, cette manifestation n'aurait jamais pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui.
Oui, c'est le cas de beaucoup d'événements.
On peut le regretter, même si on prêche ici la modération. Et vous avez raison de rappeler, Hélène, qu'avec un bon petit verre, sauf peut-être en Angleterre, on peut passer une super soirée, hein, David. Voilà. Vos cours génères, ça va, non, tout va bien. D'ailleurs, vous êtes français maintenant ou pas?
Non, pas, toujours pas, malheureusement, mais il va falloir que je me dépêche, parce que là, ils vont de connerie en connerie.
Ouais.
Et là, on ne sait pas comment ça va finir, cette affaire.
Oui, c'est vrai. Bon, allez, on a légèrement changé de sujet. En tout cas, beau sujet. Et puis, longue vie au voile Saint-Tropez, longue vie également à toutes les bulles du monde qu'on embrasse. Jean-Baptiste, merci. Merci aussi, Hélène, David et Philippe. Merci également donc à Charlotte qui a préparé cette émission de main de maîtresse, ainsi que Sébastien pour une technique irréprochable. En tout cas, j'espère que vous le confirmez. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés à Paris chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous partirons pour le second voyage de David Cobbold en Catalogne chez un tout petit vigneron, après un très très grand aujourd'hui. On accueillera également Sébastien Ferrari du château Malherbe. On ira également découvrir l'un des plus beaux vignobles du monde, Porto. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez pas, respectez toujours la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.